vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 113. Les hasards du Club des Arts de l'Europe, Catherine de Solaire. Chers amis, bonjour. Alors voilà, nous nous promenons dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg et tout au fond, près du canal de la Marne, il y a un bunker. On dit que c'était un poste de commandement allemand pendant la guerre et il y a dans la perspective d'autres bâtiments qui, sur une photo, ressemble aussi à des bunkers. Il y a un gros immeuble massif, le Conseil de l'Europe. Et on se dit que c'est un endroit inaccessible, réservé à ceux qui, politiciens, démocratiquement élus, gèrent une certaine idée de la paix, de l'éducation, de la culture en Europe. Et de l'autre côté du canal, il y a comme une annexe, un autre gros bâtiment, l'Agora. Et là, en montrant patte blanche, on pénètre comme dans un aéroport, dans un bel endroit. Et sous les escaliers, mais c'est assez grand hein, quand même, c'est un lieu d'exposition de peintures, de photos, de sculptures. Et la personne qui vous invite, c'est Catherine de Solaire. Bonjour Catherine de Solaire.
Bonjour Ambroise.
Alors vous êtes la présidente du Club des Arts du Conseil de l'Europe.
En effet.
Alors bien entendu, j'ai envie de vous poser la première question sous forme de col philosophique, art et politique. Est-ce que ça va ensemble ?
Alors, en tant que présidente du Club des Arts du Conseil de l'Europe, je ne suis pas du tout censée prendre des positions politiques.
Mais de façon globale, générale, art et politique, est-ce que l'art n'est pas essentiellement politique ? La politique, c'est pas aussi l'art d'enfumer les autres ? Ou de négocier, pardon, utilisons un vocabulaire.
Les arts ? L'art d'enfumer ne fait pas partie des beaux-arts, je sache.
Mais l'art de la guerre aussi.
Bon, mot art sert à beaucoup de choses. Oui. Là, en ce qui concerne...
En Alsace aussi, on a le lard fumé, mais ça c'est autre chose.
C'est un peu autre chose. Oui. Donc, on peut toujours jouer
sur
les mots,
bien sûr. Art et politique.
Alors, art et politique, là je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Bien que, je pourrais en parler un petit peu ultérieurement, nous avons des expositions qui évidemment... sont en lien avec l'actualité, en particulier l'actualité avec l'Ukraine.
Oui.
En ce qui concerne mes modestes fonctions, elles sont surtout de promouvoir des artistes de tous les pays d'Europe, et même quelquefois au-delà, et de les accueillir le mieux possible dans nos galeries. Alors nous avons, comme vous l'avez cité, nous avons une galerie en demi-sous-sol de l'Agora, qui est un bâtiment récent. Mais nous avons principalement une grande galerie divisée en deux parties A et B dans le sein du palais du Conseil de l'Europe, donc vraiment le bâtiment originel. Et nous avons également une série de vitrines qui sont également au sein du palais, sur le chemin du restaurant, donc très bien situé, de très belles vitrines qui permettent d'accueillir plutôt de petites sculptures, des œuvres d'artisanat, quelquefois des œuvres textiles, mais pas de grandes œuvres, pas de grands formats, bien entendu.
Alors, avant de vous poser la question, qui expose des 49 pays hein, ou 40, maintenant que la Russie, enfin, on verra ça après.
Oui, voilà, entre 47 et 49.
Comment est-ce qu'on fait pour y aller ? Parce qu'il faut y rentrer pour voir ces expositions.
Oui, alors c'est ce que quelquefois les peintres, nous, entre guillemets, reprochent, c'est que ces expositions sont accessibles au public invité uniquement les soirs de vernissage. Et que le reste du temps, ces expositions sont destinées à être vues par les agents du Conseil qui circulent dans les bâtiments et qui sont extrêmement nombreux. Et donc, il y a un véritable public régulier.
Alors, c'est une ville dans la ville.
Un peu. un peu. Oui. Et un univers qui peut paraître de l'extérieur assez clos. Et c'est bien certain.
C'est pas frustrant un peu pour les artistes? Ou alors ils en profitent pour faire un peu chez vous, puis après ils vont en ville, dans une autre galerie?
Non, c'est peut-être frustrant pour certains. Cependant, ils savent à quoi ils s'engagent. Ils savent très bien qu'il n'y aura que des invités nommément inscrits sur une fiche, au moins 15 jours à l'avance, pour que ces invités en question puissent obtenir
avec
un badge.
Carte d'identité,
badge. Absolument, vous avez vécu donc, ça, sans doute.
Oui. Et donc, c'est en même temps très prestigieux, parce que si vous faites sur votre CV, exposition, galerie machin, galerie truc-muche, galerie du Conseil de l'Europe.
Absolument. Et lorsque vous parliez de frustration, il y a cette petite frustration de ne pas être vu par beaucoup de monde, mais vu par une sélection, j'allais dire.
De gens.
Susceptibles quand même de s'intéresser à l'art.
Et qui achètent beaucoup d'œuvres.
C'est assez variable.
Ça dépend de l'artiste,
oui,
bien sûr.
Ça dépend de l'artiste, ça dépend de ses prix aussi, parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'artiste, si vous avez vendu des œuvres à un certain prix quelque part, vous ne pouvez pas diminuer sous prétexte de vouloir
bien
vendre
sûr.
Plus. Vous avez une cote, plus ou moins importante. Et en fait, il faut rester quand même à la fois dans des prix raisonnables, mais dans des prix qui correspondent à ce que vous avez déjà vendu. Parce que de précédents acquéreurs pourraient dire « Mais enfin, moi, je l'ai acheté 3000 euros. Pourquoi est-ce que maintenant, c'est à 1500 au Conseil de l'Europe ?»
Voilà. Alors, on va poser maintenant la question. Qui expose ? Ce sont des gens qui viennent des 49 pays. Est-ce que c'est vous qui les sélectionnez ? Comment ça se passe ? Vous voyagez partout dans l'Europe pour
Non. Je suis assez statique à Strasbourg. Ça peut donner l'occasion à l'occasion des rencontres avec les artistes, ça peut donner des occasions futures de voyage. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les artistes des différents pays d'Europe posent leur candidature. Alors, nous avons un site, puisque nous faisons partie de l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe. C'est une section importante, mais c'est une section
D'accord.
de l'amicale du personnel.
Et chaque représentation permanente du Conseil de l'Europe diffuse votre appel aux artistes.
Les artistes posent leur candidature. En général, nous envoyons les appels à candidature à l'automne, septembre, octobre. Ils posent leur candidature pour l'année suivante. Pour poser sa candidature, il faut être parrainé par soit un agent actif du Conseil de l'Europe, soit une représentation permanente, bien entendu.
Mmh. Et donc, vous avez beaucoup, beaucoup de candidatures. Comment vous faites ?
Alors,
vous faites combien d'expositions par an ?
Alors, jusqu'à une époque récente, nous faisions une exposition par mois. Comme je suis obligée de le souligner de temps en temps, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, nous sommes bénévoles. Il y avait des moments où ça devenait beaucoup trop lourd, parce qu'il y a non seulement l'organisation matérielle, l'organisation administrative, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, qui est d'ailleurs réalisé par une de nos amies qui se dévoue, parce que ce n'est pas la partie la plus drôle.
Il faut peut-être payer le transport des œuvres aussi.
C'est
à la charge de.
C'est à la charge de l'artiste si.
Oui.
Si
mais est-ce que l'artiste ne devient pas un petit peu un élément de propagande d'un pays, par exemple, qui
ça
dit.
Peut. Bien
oui.
entendu.
Alors comment,
bien
comment
entendu.
Vous faites pour sélectionner?
Oui, alors j'en finis avec la sélection préalable. Donc il y a une candidature qui est posée et surtout parrainée par quelqu'un d'autorisé. Ensuite, nous accueillons ces candidatures et nous les soumettons à l'ensemble des agents du Conseil de l'Europe pour un vote.
Oh. Ah oui, donc,
oui.
Et il y a combien d'agents? Il y en a des centaines.
Il y en a plusieurs centaines.
Oui.
Plusieurs centaines. À l'issue de ce vote des agents du Conseil de l'Europe, notre comité du Club des Arts voit ceux qui ont eu le plus de voix.
Oui, alors j'imagine que tous les Bulgares vont voter pour l'artiste bulgare, mais tous les Allemands qui sont les plus nombreux vont voter pour. Donc vous allez...
Alors, il y a justement, c'est pour ça que le comité du Club des Arts est très important, c'est-à-dire que nous tenons compte, bien entendu, du nombre de votes pour chaque artiste, mais notre décision finale est
vous
liée...
Vous êtes souverain, c'est
oui,
vous.
Oui, nous sommes souverains. Et notre décision finale est liée aussi au fait que certains artistes ont bénéficié d'un lobbying extrêmement important, alors qu'ils nous paraissent d'une moindre qualité par rapport à des artistes qui ont eu moins de votes. Et donc, nous tempérons un petit peu ce vote global.
Alors, pour tempérer, j'imagine que vous êtes artiste, pas seulement en herbe, mais pour le vrai.
Une herbe...
vous peignez, j'en suis fort aise, et vous sculptez aussi maintenant.
Non, je suis vraiment peintre spécialisée dans la peinture à l'huile.
À l'huile.
Oui,
c'est bien plus difficile que la peinture à l'eau, mais c'est bien plus beau. Mais vous étiez une agent...
Du tout. Non. Alors moi, je suis bénévole par essence, j'allais
dire.
Alors,
comment est-ce que vous êtes tombée dans le Conseil de l'Europe ?
Alors, il y a déjà, j'allais dire, plusieurs décennies, j'ai participé, enfin je suis membre toujours, de l'Amicale Femmes du Conseil de l'Europe. Cette Amicale Femmes a été fondée il y a plusieurs décennies par l'épouse d'un ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et l'idée, et c'est ça qui m'avait séduit, l'idée c'était de faire un lien entre la société civile strasbourgeoise et les femmes qui arrivaient, dont le mari travaillait au Conseil de l'Europe.
Les épouses perdues.
Et les épouses, des épouses même, des épouses d'ambassadeurs.
Ciel, mon mari est nommé en Alsace.
Absolument. Oui. Et donc, moi, c'est cette idée d'accueil et de lien entre les Strasbourgeoises, d'origine ou issue de différentes régions et de Paris, puisque moi, je suis parisienne. Et cette idée d'accueil m'avait tout à fait séduite. Et par parrainage, parce que j'avais des amis au conseil, je suis entrée à l'Amicale Femmes.
Alors, les femmes appellent les femmes, mais c'est quand même un petit peu désuet. Alors, c'était il y a 50 ans, mais entre-temps,
alors,
il y a
je,
eu...
Alors, je reviens justement sur cette évolution de l'Amicale Femmes. C'est-à-dire que ça avait énormément de sens au moment de la fondation.
Parce il y a 50
beaucoup,
ans.
Oui,
c'est pour ça que vous appelez club.
Un peu,
parce que le
un
mot
peu
club
moins, parce
aussi
que là,
est désuet.
Là, je vous parle de l'Amicale Femmes qui a été fondée alors, dans les années 80. Donc, c'est plus récent. Et ça avait un vrai sens parce que, effectivement, il y avait des épouses qui, même en ayant une profession dans leur propre pays, ne pouvaient pas l'exercer en France. Et donc, elles se retrouvaient isolées. Et c'était intéressant de pouvoir les accueillir, leur faire visiter la ville, éventuellement la région. On organisait beaucoup de goûters.
Alors, mais tout ça c'était un club tupperware artistique, c'est ça ?
Pas du tout tupperware. Mais non, alors là, c'était pas artistique.
Non, mais c'était les femmes qui se retrouvaient entre elles.
Un club d'accueil, oui,
d'accueil.
Avec des goûters, des déjeuners. Et tout cela est un peu obsolète, puisque... maintenant, ce sont beaucoup des femmes qui sont elles-mêmes agents. Et ce sont quelquefois...
Et c'est les maris qui s'embêtent à la maison.
Alors là, je ne m'engagerai pas sur ce plan. Mais et les représentations permanentes, il y a des femmes ambassadeurs. Donc
sûr.
Évidemment, ce n'est pas la pauvre épouse qui ne sait pas quoi faire.
RP de française, oui, oui. C'était, on la connaît bien à Strasbourg, Marie Fontanelle. Voilà.
Effectivement, l'Amicale Femmes a été obligée d'évoluer un petit peu. Alors, évidemment,
alors,
je
attendez,
ne suis pas ici...
parce qu'on parlait des choses désuètes, moi, c'est le mot club. Alors, ça me fait penser au Club des Cinq, Enid Blyton,
oui.
Qu'on lisait
alors,
il y a 50 ans. Pourquoi
femme,
le mot club ?
L'Amicale Femmes ne s'est pas intitulée du tout club. Là, je vous parle d'une section dont je me suis occupée parce que vous m'avez demandé comment j'étais entrée dans le bénévolat au Conseil de l'Europe,
oui.
Dans le chaudron. Eh bien, de ce chaudron de l'Amicale Femmes, on m'a tirée pour aider pour le Club des Arts. Et ensuite, eh bien, l'année dernière, on m'a fait l'honneur de me vouloir comme présidente.
Vous avez été élue à l'unanimité.
J'ai été, disons, cooptée et ensuite, ça a été confirmé que je pouvais prendre cette fonction, au moins provisoirement. Et alors, en ce qui concerne le nom du Club des Arts, alors la fondation du Club des Arts, c'était il y a justement 51 ans maintenant, et ça a été fondé au départ par M. Keith Folka et quelques agents qui se réunissaient plutôt pour faire d'ailleurs de la poésie, des lectures de textes, de faire du théâtre également. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, des espaces d'exposition nous ont été attribués. Et ce Club des Arts s'est vraiment spécialisé dans l'organisation d'expositions.
Et vous faites d'autres choses que les expositions ? Alors, faites des sorties ?
Oui, dans la mesure de nos possibilités d'emploi du temps.
Et financières peut-être ? Est-ce que les artistes, lorsqu'ils vendent un tableau, ils vous donnent un petit pourcentage ?
Ah non, non, non. Alors justement, ça, c'est l'avantage pour les artistes, c'est qu'il y a une petite inscription qui était de 50 euros que nous avons passé à 80, mais après, tout ce qu'ils vendent est pour eux.
D'accord.
Nous ne prenons aucun pourcentage. Nous n'avons pas réellement de budget, vous voyez.
Ouais, d'accord. Donc vous êtes une association quand même, je suppose. Loi 1908
Pas du tout. Non, ça c'est complètement en dehors puisque nous sommes au sein du Conseil de l'Europe. Nous sommes une section de l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe.
Donc, alors,
une
section administrativement, c'est plus facile.
Administrativement, nous n'avons rien à voir avec avec la loi française, tout simplement.
D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez des réactions, disons, un petit peu plus politiques ou un petit peu... Est-ce que, par exemple, récemment, vous avez exposé des artistes russes?
Non.
Ah.
Non.
Et est-ce que si vous aviez un russe absolument formidable et tout, est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous auriez envie de l'exposer ?
Alors,
bon, les Russes sont parfois un peu moldaves ou ukrainiens, mais...
Alors, ce qui se passe, c'est comme je vous l'expliquais, l'artiste doit impérativement être parrainé par un membre actif du Conseil de l'Europe.
Et donc, malheureusement,
la Russie n'est plus une partie prenante du Conseil de l'Europe pour
l'instant.
Depuis
le 16 mars 2022, la suite de l'invasion d'Ukraine.
Donc, malheureusement, nous ne pourrions pas accueillir d'artiste russe, quelle que soit sa qualité.
Voilà.
En revanche, évidemment, les associations pro-ukrainiennes et les associations en faveur de l'Ukraine sont très actives. Et nous avons eu le mois dernier l'occasion d'inaugurer l'exposition de Roman Minin, qui est, paraît-il, un artiste extrêmement connu en Ukraine et qui est réfugié ici depuis 2 ans et qui a fait une très grande exposition, très colorée, très vivante, sur le thème de l'optimisme. Il est parti des lettres du mot « optimisme » pour créer des... un jaillissement de couleurs et d'espoir qui donnait un ensemble très intéressant. Les toiles prises une par une pouvaient surprendre, paraître peut-être un peu naïf quelquefois, mais l'ensemble donnait une impression de force et de puissance. Et ce que l'artiste m'a expliqué, c'est qu'il avait vraiment fait cette exposition pour le Conseil de l'Europe, que ce thème et que la manière de l'exécuter était très différente de ce qu'il faisait lui-même en Ukraine normalement, et que donc là, vraiment, c'était une exposition pour le Conseil de l'Europe.
Voilà. Alors moi, comme ça, naïvement, j'imaginais une exposition avec deux artistes conjointes, un russe et un ukrainien, qui s'embrassent sur la bouche.
On peut rêver, bien sûr.
Duchel Bauer, le chef d'orchestre,
que je connais bien.
Voilà, il avait... une soliste israélienne et un soliste palestinien qui jouaient dans le même orchestre.
Ce qui est vrai, c'est que les musiciens sont sans frontières et que dans les orchestres, vous avez des musiciens de tous les pays, de toutes les obédiences, de toutes les religions.
Petite parenthèse, Vadim Repin, le grand violoniste à Bruxelles, qui est un des membres les plus éminents du jury et du concours Reine Elisabeth. C'est un Ukrainien qui a gagné parce qu'il était le meilleur,
Oui.
Et l'Ukrainien a refusé de lui serrer la main.
Oui.
Mais en même temps, on peut comprendre, c'est un peu compliqué.
Oui.
Alors, Je vais quand même vous poser une question, puisque vous étiez... Est-ce que vous connaissez les trois mots, hein, parce que vous avez parlé d'optimisme,
oui.
Les trois mots qui, en Europe, se prononcent de la même façon, presque.
Ah, bah vous, vous me posez une colle que
voilà.
J'accepte
alors,
avec plaisir.
Coca-Cola, on comprend ça partout, McDonald's et démocratie.
Ah.
Je crois que oui. C'est juste en Finlande où c'est vraiment autrement. Mais
oui.
Dans tous les pays,
oui.
Ils ont pris démos, kratos,
oui.
Du grec.
Oui,
et
oui,
donc,
oui.
Le mot démocratie, quel
et
que
oui.
Soit le pays où vous voyagez, vous pouvez le dire. Donc, c'est comme la peinture, c'est comme la musique, c'est comme l'art. Ce mot
oui.
Démocratie,
oui.
Il marche dans tous les pays
il est sans frontières.
De l'Europe, voilà. Bon, alors, on va terminer cette émission par parler de votre art. À vous, qu'est-ce que vous peignez à l'huile ?
Alors, je peins, oui, comme je vous le disais, à l'huile, qui est un médium qui me donne le temps de réfléchir, d'approfondir le sujet. Je réfléchis toujours assez longuement avant de me jeter sur la toile. Je fais des dessins préparatoires. C'est une démarche qui s'inscrit dans le temps. Ce n'est pas
c'est le sujet de notre émission, le temps.
Oui.
Et alors,
ce
vous
n'est
rattrapez
pas du tout,
le temps comme ça.
Ce n'est pas du tout une peinture de l'instant, une peinture de la sensation immédiate.
C'est pas Hans Hartung, là, tac, 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 le
oui,
tableau est terminé.
Oui, je comparerais ça avec une opposition par rapport à l'aquarelle, où vous laissez faire un petit peu le hasard aussi, et qu'en un quart d'heure, vous savez si vous avez quelque chose ou si vous pouvez déchirer la feuille. Moi, j'ai une espèce de respect exagéré, sans doute, pour la toile. Et donc, avant de toucher à la toile, je réfléchis énormément, je fais des dessins préparatoires. Alors, j'ai plusieurs grands thèmes. Il y a un thème, celui de ma dernière exposition au Conseil de l'Europe, qui était Éole. Alors, c'était le thème du vent. Et ce thème du vent est assez riche, en tout cas pour moi, parce que...
pas métaphorique comme thème, parce que vous me diriez, je peins des éléphants, je peins des girafes, d'accord, ou des coquelicots,
oui,
ou,
alors
ou
ce
des
vent,
iris,
ce...
mais là, le vent.
Oui, ce vent, ça m'a été inspiré par plusieurs choses. D'abord, la multiplication des éoliennes.
D'accord.
Et ensuite, le témoignage d'anciens déportés, qui, en particulier dans le nord de l'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, je parle du camp de Neuengamme, qui est moins connu que certains autres camps parce qu'il avait été vidé par les Allemands juste avant l'arrivée des Alliés. Pour mon histoire personnelle, en fait, mon père a été trimballé de Neuengamme à Ravensbrück, dans des marches de la mort, où il a été libéré par les Russes. Donc, ça nous remet en perspective l'histoire.
Ouais. Donc, en fait, oui. Un artiste plonge toujours dans ses racines, dans ses racines familiales.
D'une certaine manière,
oui.
D'une certaine manière. Et puis, alors, il y a des choses qui reviennent tardivement, c'est-à-dire des choses qu'on a ignorées pendant toute sa jeunesse et qui, finalement, reviennent.
Oui. Est-ce que les artistes que vous exposez au Conseil de l'Europe, ils ont aussi... est-ce que vous décelez chez eux cette... racine, cette souffrance peut-être
dans certains cas, oui. C'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir inaugurer leurs expositions et de parler avec eux avant et puis de voir un petit peu ce que signifie leur peinture. Oui, alors pour revenir à ce thème du vent, il y a donc le vent cruel qui a tant fait souffrir les déportés. En particulier dans le nord de l'Allemagne, puisque c'est une région qui est coincée entre la Baltique et la mer du Nord. Donc, le vent ne cesse jamais. Et lors d'un pèlerinage pour la libération des camps, en camp de concentration, lors d'un pèlerinage, je m'étais aperçue qu'il y avait une multiplication des éoliennes dans cette région. Ce qui s'explique très bien, puisque ce vent souffle en permanence. Et donc, ça
mais
doit produire...
Mais ce vent faisait certainement souffrir tous
alors,
les
c'est un
détenus
vent de souffrance, et
de
c'est
froid.
Un vent aussi bénéfique, puisqu'on prétend récupérer quelque chose de naturel pour fournir de l'énergie.
Merci beaucoup. Alors, autant en apporte le vent. Hein, voilà, c'était l'épisode numéro 113 de Vous l'avez bien connu, les hasards du Club des Arts de l'Europe, Catherine de Solaire. Alors, je vous ai un peu coupé le sifflet du vent, mais art et paix, comme aurait pu dire Tolstoï, un russe anti-Poutine, vous ne l'exposeriez pas quand même ?
Je vous répète, nous avons un protocole.
Alors, la semaine prochaine, nous recevrons une Strasbourgeoise qui est aussi moldave et ukrainienne, Svitlana Spenle, hop là, qui est présidente de l'association Ukraine for Women et qui nous racontera, entre autres, deux passions culinaires. Alors, bien sûr, le borscht avec ses betteraves, mais aussi le Bäckehof avec ses trois viandes. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.